Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Odile Rosset.
Bonjour Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain.
Et d'ailleurs, au passage, je suis très heureux de vous annoncer que le podcast 2030 Glorieuse se donne les moyens de ses ambitions en nouant un partenariat avec la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologique et culturel, et c'est donc tout à fait cohérent qu'ils soutiennent ce podcast qui met en avant celles et ceux qui construisent les mondes de demain.
Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Carton Plein à Paris et nous allons parler avec toi, Odile, de revalorisation des matériaux, de déplacements urbains sans émissions de gaz à effet de serre et de réinsertion professionnelle de personnes exclues du monde du travail. On va parler de tout ça, ça va être un échange passionnant, je m'en réjouis, ça fait longtemps que je connais Carton Plein, mais l'occasion a fait le larron pour qu'on soit ensemble aujourd'hui. Mais pour commencer cet échange, j'ai toujours la même question, celle de la porte d'entrée vers les métiers de demain qui sont aujourd'hui pas très démocratisés. Et donc toi, si jamais tu rencontres de nouvelles personnes et que forcément la première question apparaît, toi tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu leur réponds?
Alors j'aime bien leur répondre, je collecte du carton à vélo. Parce que ça génère toujours un petit blanc. Je pense que les gens essayent de visualiser un peu ce que ça fait. Bon, je les laisse pas trop longtemps dans le blanc parce que, en fait, c'est pas non plus complètement mon quotidien d'être tous les jours à vélo et de collecter du carton. Ça me permet après de présenter l'association, son projet. Mais j'accroche toujours un peu comme ça parce que ça surprend.
Donc, collectrice de carton à vélo, tu es directrice, en fait, de l'association Carton Plein. Est-ce que, du coup, tu peux me dire en quoi consistent les missions de Carton Plein, qui sont assez uniques? C'est une association qu'on retrouve pas dans d'autres villes de France, en fait, autre que Paris.
Oui, effectivement. Alors, on a 8 ans. On s'est créé à Paris, dans le nord de Paris, en 2012, par une amitié, en fait, entre une personne qui était à la rue et qui vivait de la bif, donc qui était bif, hein, qui récoltait ce qu'il trouvait essentiellement des métaux pour les revendre, et une personne qui habitait dans le 18e. Et de leur amitié est née l'idée de faire la même chose autour du carton, en se disant que des gisements de carton, il y en avait partout, nos poubelles, nos rues regorgent de carton. Et donc cette idée de collecter le carton et de le recycler, de le revendre au poids. Donc pendant un an, l'association a fonctionné comme ça. Le but était double, était de créer de l'activité pour des personnes qui étaient en situation compliquée, en parcours d'errance, dans des situations de précarité. Et quitte à inventer des activités adaptées aux personnes en précarité, autant le faire dans un sens vertueux en termes d'écologie et donc de collecter à vélo. Donc en 2012, on s'est lancé Carton Plein, s'est créé du côté du 18e en collectant le carton chez les particuliers et en le revendant. Au bout d'un an, on s'est un petit peu cassé la gueule. Voilà, le marché du carton recyclé est compliqué. Et en 2013, une idée et un dispositif. Donc l'idée, c'était de dire finalement, ces cartons peuvent reprendre une deuxième vie de carton. Il n'y a pas besoin de les recycler, on peut être sur du réemploi. Et Paris, qui travaillait depuis quelques années sur le travail à l'heure, avec des associations comme Emmaüs Défi notamment, faisant le constat que l'insertion par l'activité économique marche bien. C'est un bon dispositif qui permet de relancer et de réaccompagner des personnes vers l'emploi, mais laisse de côté encore une certaine partie de la population, notamment les personnes qui vivaient dehors, notamment les personnes à la rue. Et donc ce travail, toute cette expérimentation sur le travail à l'heure a donné lieu au dispositif Premières Heures, dans lequel on s'est engouffré, complètement persuadé qu'on était sur le bon champ. Donc ce dispositif Premières Heures permet de donner un cadre légal à des contrats de travail qui sont hyper spécifiques, qui sont très courts. Les personnes peuvent venir travailler chez nous 3, 6, 9 heures par semaine. Donc on est vraiment sur des contrats super particuliers. Et le travail est vecteur de remobilisation. Voilà, par le travail, on se reconnecte à soi-même, on reprend confiance, on commence à réinterroger un projet de vie, un projet personnel, un projet professionnel. Donc voilà, ça c'est les débuts de Carton Plein autour de la valorisation des cartons, revalorisation des personnes, reconnexion des personnes à elles-mêmes et à un projet. Et puis, très vite, en fait, on a vu tout le potentiel qu'il pouvait y avoir en termes de logistique à vélo. Donc avec nos petites remorques et nos petits vélos, on collectait le carton, mais on a vu qu'on pouvait faire pas mal de choses. L'idée est arrivée de déménager en vélo. Donc là, effectivement, on a été précurseur et assez visible dans l'espace public avec nos remorques chargées de carton, avec une armoire qui dépasse, etc. Enfin, tout bien accroché comme il faut, mais effectivement, ça se repérait dans l'espace public. Donc, on a été assez identifié au déménagement, mais c'est une seule partie de notre activité. Activité qui commençait à être plus complètement raccord avec les principes du dispositif Premières Heures. Donc en 2018, on est devenu entreprise d'insertion sur ces métiers de la logistique à vélo. Et encore une fois, voyant tout le potentiel de ce marché-là restant sur notre ADN et notre vocation sociale d'ouvrir ces métiers à des personnes éloignées de l'emploi, on est devenu organisme de formation en 2019 avec des modules qu'on a inventés pour former des personnes éloignées de l'emploi, encore une fois, à se former sur ces métiers de la logistique à vélo. Donc aujourd'hui, Carton Plein, c'est une soixantaine de personnes sur Paris et sur Nanterre autour du réemploi de carton et autour de la logistique vélo, avec cette vocation d'inventer des activités adaptées à des personnes en situation de précarité.
Ça donne envie de creuser deux portes. La première, c'est de savoir comment on en vient à devenir collectrice de cartons à vélo. Et donc, il y a cette porte personnelle et professionnelle qui m'intéresse. Et puis aussi, quand je t'entends décrire l'activité de Carton Plein, je pense qu'il y a pas mal de personnes au début, si jamais vous leur aviez présenté l'idée de base de Carton Plein, vous auriez dit, mais pourquoi vous compliquez la tâche ? Soit on choisit la question écologique, soit on choisit la question de la solidarité, de l'insertion professionnelle. Mais les deux, ça va être insurmontable. On va y revenir après. Et ma première question, c'est comment on se dit, forcément, les vélos, les cartons, les déménagements, c'est exactement ce que je veux faire et c'est exactement l'initiative que je veux chapeauter, accompagner et même diriger, puisque toi, tu en es la directrice de toutes ces personnes qui se baladent en vélo partout à Paris.
Alors, pas une vocation à 6 ans où je me suis dit, je ferai toujours ça. Non, pas du tout. C'est une sorte de reconversion. Moi, je suis à Carton Plein que depuis un an et demi, donc je ne porte pas du tout l'histoire depuis le démarrage. Il y a eu des fondateurs, il y a eu d'autres personnes qui sont passées avant moi, certaines qui sont encore là. Donc moi, je suis urbaniste de formation. Donc j'ai travaillé pendant 10-15 ans sur les projets de rénovation urbaine. Donc à la fois, rien à voir, et puis finalement, il y a une connexion à un moment. Donc ces dernières années, je travaillais dans le nord de Paris, je travaillais pour l'agglomération Pleine Commune, donc toutes les villes autour de Saint-Denis, sur des projets de rénovation urbaine. Donc c'est vraiment des projets, on refait la ville sur la ville dans les quartiers dits sensibles, dits d'habitat social, dits prioritaires. Et finalement, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conduit en accord avec les élus locaux. Ce sont des projets qui sont l'atterrissage d'un projet de développement local finalement. La partie urbaine, la partie immobilière est juste l'aboutissement d'un projet de développement local, et qui disait développement local, en tout cas dans le sens qu'on leur a donné, c'était une vocation de développement local endogène. Donc comment on part des forces vives qui étaient en présence sur les quartiers, notamment les acteurs de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire qui ont fait leur apparition quand même très fortement ces dernières années, et comment on fait un projet urbain, effectivement, et un projet de quartier autour de ça. Donc voilà, par ce biais-là, j'ai commencé à graviter autour de ces acteurs-là, donc avec un petit clin d'œil aux acteurs très présents dans ces quartiers, notamment les régies de quartier, mais pas que, qui font un travail incroyable. Donc je connaissais ce secteur-là, ça me plaisait bien, ça faisait 9 ans que j'étais dans la même collectivité. Je me suis jamais ennuyée, mais je commençais à me dire que ce serait intéressant d'aller voir ailleurs. Très clairement aussi, à titre personnel, on rentrait dans une phase qui était préélectorale, donc c'est jamais là où ça bouge très vite. Et à titre personnel, j'avais un peu envie d'être dans une structure plus... alors, j'aime pas ce mot-là, mais il est quand même très parlant. Enfin, une structure plus agile, où les process de décision peuvent être plus raccourcis. Et donc, j'avais envie, assez persuadée d'une urgence et sociale et écologique, d'être dans une structure où on bouge, et on bouge à une vitesse qui est la vitesse utile en ce moment, au vu des enjeux qui, je trouve pas la fin de ma phrase, des enjeux d'aujourd'hui.
Et pour revenir même plus en arrière, on a un point commun, toi et moi, c'est celui d'avoir utilisé, bénéficié de la formidable plateforme offerte par la DCC, hein, la Délégation catholique pour la coopération, qui permet à plus de 500 volontaires chaque année de partir grâce à la formule du volontariat de solidarité internationale. Moi, j'ai eu la chance de partir en Colombie et aux Philippines entre 2010 et 2016 environ. C'est une grosse fourchette. Toi aussi, tu as eu cette expérience avant moi, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Oui. J'ai quelques années de plus. Moi, je suis partie au Tchad entre 2004 et 2006. Et je pense qu'effectivement, dans mon parcours, ces 2 années de volontariat avec la DCC ont été hyper fondatrices. Parce que très bien préparée à la rencontre interculturelle, parce que ces 2 années au service d'un projet sont vraiment, en termes de rencontres, de compréhension, d'humilité, en termes de leçons de vie, elles sont absolument énormes. C'est une espèce d'immersion pendant 2 ans dans une culture qu'on ne connaît pas, dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, je suis restée très en lien avec la DCC jusqu'à carton plein, parce que là, au bout d'un moment, il y a une question de temps. Mais je suis restée chargée d'orientation. Donc effectivement, en charge bénévole du recrutement de tous les candidats qui ont envie de partir en volontariat et qu'on reçoit sur des week-ends où on chemine un peu avec eux sur leur projet de départ. Donc oui, super point commun.
Et donc la solidarité qui devient assez évidente comme un fil conducteur de ton engagement et qui se concrétise à nouveau avec carton plein. Et justement, je reviens à cette deuxième porte de carton plein où disons que les moins optimistes diraient mais pourquoi se compliquer la tâche ? Soit vous êtes une association qui œuvre pour des enjeux de durabilité, d'écologie, donc là en l'occurrence de revalorisation des matériaux et du carton, et on y reviendra encore après, l'axe même de revoir la mobilité dans la ville, soit on fait de la solidarité. Et donc on plonge peut-être la première dans, effectivement, tu parlais tout à l'heure du DPH, de l'insertion, de sujets qui méritent quand même, rien qu'en eux-mêmes, une attention de tous les temps. Moi, ma question derrière, parce que là c'est une question un peu alambiquée, mais pourquoi la durabilité et la solidarité vont de pair? Quels sont les exemples dans carton plein qui montrent qu'en fait, fin du mois, fin du monde, même combat?
Super bonne question. Je vais essayer. T'as mis plein de paramètres. Tu me rappelleras si j'en oublie certains. Alors, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on se complique la tâche. Et deux, c'est pas 2 piliers qu'on a, c'est 3 piliers. On est vraiment sur 3 pieds et qui font vraiment la force du projet de carton plein, c'est qu'on est sur le pilier social, clairement. C'est vraiment, le parti pris de carton plein, la raison d'être de carton plein, c'est vraiment son projet social. On est évidemment un acteur écologique et troisièmement on est un acteur économique. On est vraiment sur les 3 piliers et c'est ça qui fait ce modèle hybride fait vraiment la force du projet de carton plein. On est un acteur identifié à notre échelle, raisonnablement et de manière modeste, mais on est identifié comme un acteur avec une expertise dans l'accompagnement des plus précaires vers l'emploi. On est un acteur, alors sans être un gros du déchet ou quoi, mais on est un acteur de la transformation des matériaux et de la revalorisation. On a un acteur professionnel, et on est positionné sur le segment économique. On est clairement dans le système qui existe aujourd'hui. On ne souhaite pas se positionner en marge du système, on est dedans et on propose une alternative un peu plus hybridée, peut-être un peu différente, où le cadre de travail est sécurisant, où le cadre de travail est chaleureux. On essaye d'expérimenter d'autres formes de travail, mais en tout cas, on est bien dans le système actuel et sûrement pas dans un monde parallèle qui vivra à côté du monde dominant.
Mais donc, ça veut dire que toutes les personnes qui disent « Oui, vous êtes bien sympa avec l'écologie, mais en fait, le projet de société d'un monde durable, il tient pas parce que économiquement, en fait, ça va moins faire tourner la machine et donc ça va créer tout un tas de fracassés au niveau de l'emploi. » C'est faux. Et vous, avec Carton Plein, vous montrez qu'en fait, se mettre au service de la planète, c'est trop un raccourci. Mais donc, essayer de réduire au maximum l'impact de l'activité humaine, en fait, ça peut générer, et d'une, des ressources économiques, et de deux, de nouveaux emplois. Dans la société de demain, il peut y avoir de nouveaux emplois, et typiquement celui de valoriste un peu hein, que vous portez. C'est exactement ça, et ça sera amené, mais ça on en parlera tout à l'heure dans 2030 Glorieuse, à se propager, pourquoi pas, dans toutes les villes de plus de 20, 30, 40 000 habitants en France, j'en sais rien.
Oui, clairement, clairement. Effectivement, nous on aime bien dire qu'on invente. On invente des nouvelles activités qui sont les activités d'aujourd'hui, en fait, ou de demain, ou de 2030. Non, on peut les faire dès maintenant, mais oui. Alors, évidemment, hein, on est dans un système quand même aussi particulier. On est dans un système où on génère du chiffre d'affaires, mais on est, au titre de notre activité sociale, aussi soutenu par les pouvoirs publics. On s'insère dans des dispositifs d'insertion, dans des dispositifs de solidarité, etc. Mais on est effectivement dans un système où on crée de l'emploi. Et oui, il y a de l'activité qui est... Alors, on le fait à titre non lucratif, mais qui a une valeur marchande qu'on vend. Donc, on vend des prestations.
Dernière... élément de Carton Plein que je voulais aborder avec toi, c'est celui de proposer de nouvelles manières de se déplacer en ville. Pareil, en général, quand on parle d'écologie et de la place de la voiture, notamment en ville, tout de suite, l'un des premiers freins qu'on nous oppose, c'est de dire oui, mais comment ils vont faire les professionnels sans leur camionnette, sans leur voiture pour se déplacer? Tu te rends pas compte, c'est compliqué. Et puis après, tu auras l'air fin quand tu voudras aller, je sais pas, chercher ta nouvelle machine à laver, ton nouveau frigo, ton nouveau canapé. La voiture, elle continue à normalement, quand on a ces conversations, hein, mais avoir dans l'imaginaire collectif une place, quelle que soit la tendance que prendra notre mode de développement. Alors que vous êtes clairement en train de dire que des appartements parisiens peuvent être complètement déménagés à vélo. Et en fait, donc du coup, on peut en fait revoir quasiment l'intégralité de nos déplacements grâce à la mobilité douce qui a une place prépondérante en ville dès aujourd'hui.
Oui, alors moi je pense qu'à titre individuel, moi par exemple, j'ai jamais de voiture, je fonctionne 100% vélo. Après, je suis pas une intégriste du vélo. Je pense qu'il y a besoin de toutes les... Enfin, voilà, c'est le multimodal quoi, qui est vraiment la bonne solution pour aujourd'hui et pour demain. Après, on peut effectivement bien sérieusement booster encore le vélo dans nos villes. Là, tous les derniers mois, avec tout ce qui se passe en termes de confinement, télétravail, etc., enfin, la livraison à domicile a encore fait un boom incroyable, le e-commerce également. Il faut que la logistique la cyclo-logistique se renforce. Alors, ça ne vaut pas dans tous les territoires. Je pense qu'effectivement, les modèles qu'on développe, ils valent pour des territoires denses, évidemment. Alors, techniquement, à vélo, pour répondre à ta question sur les appartements, il n'y a pas grand-chose qui soit limitant. On pourrait faire des déménagements d'appartements de 100 mètres carrés, on peut déménager des entreprises, on peut avoir des distances entre les points de départ et d'arrivée qui sont de plusieurs dizaines de kilomètres. Techniquement, c'est faisable. Après, ça a moins de sens au bout d'un certain temps. On va mettre 5 fois plus de temps qu'un camion, etc. Par contre, typiquement, dans Paris ou dans une métropole un peu dense, souvent, les gens restent dans le même quartier. Voilà, notre profil un peu cible, ça va être la famille qui a un enfant qui arrive, qui cherche une chambre de plus, mais qui va rester dans son arrondissement, dans son quartier, parce qu'elle a ses écoles, ses crèches, son réseau, etc. Et donc là, c'est vrai que faire appel à un déménageur avec un camion pour une distance de 2 km, le camion qui va galérer à circuler pousser, à se garer, etc. Là, les vélos et les vélos remorques sont hyper efficaces.
Concrètement, on parle de vélos électriques, de remorques adaptées. Est-ce que tu peux me décrire un tout petit peu comment ça se présente, comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de logistique, d'organisation, de matériel? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de puissance à avoir, de savoir-faire dans le maniement du vélo? Enfin, aider les gens à se faire une image plus précise de ce que ça implique.
C'est assez simple et assez technique en fait, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le monde du vélo bouge énormément aussi en termes de logistique à vélo. Petit clin d'œil, il y a un réseau qui s'appelle les Boîtes à Vélo France qui regroupe plein d'entrepreneurs qui travaillent avec le vélo, donc des plombiers, des paysagistes, des traiteurs, des déménageurs, voilà, de tout. Donc on peut effectivement conduire et piloter toute son activité à vélo. Donc à Carton-Plein, notre outil de base, c'est le vélo électrique. Donc il y a des batteries, parce qu'on tire des charges assez conséquentes, avec des remorques qui sont derrière, qui permettent de mettre des bases de carton, qui permettent de mettre un canapé, un frigo, une machine à laver, tout passe. On peut tirer 200 kilos derrière, sans effort particulier avec la batterie. On s'est au fur et à mesure un peu équipé avec du matériel un peu différent pour pouvoir s'adapter aux différentes commandes. Donc on a quelques biporteurs, donc ça c'est des vélos qui sont plus longs où la charge est portée à l'avant. On a quelques triporteurs, on avait un quadriporteur, voilà, on a essayé un peu les différentes possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que oui, techniquement les fabricants aussi inventent des nouvelles manières de travailler. Donc il y a des remorques qui deviennent, il y a des bicylifs qui sont intéressants dans lesquels on peut directement pluguer des rolls, des containers. On a fait fabriquer des remorques avec haillons, donc avec des rampes qui nous permettent, voilà, de glisser, de faire rouler des containers pour bien rester vigilant à la pénibilité du travail. Donc oui, il y a des choses, c'est un métier, voilà, avec son équipement qui va avec. Et oui, par contre, c'est vraiment aussi de la formation, et c'est aussi pour ça qu'on est devenu organisme de formation. Je pense qu'on a tous un peu l'idée de ce qu'on voit dans la rue, donc on a l'impression que le livreur à vélo, c'est je prends mon sac à dos, je prends un Vélib ou un vélo de location et je pars comme ça. Ah non, il y a quand même un petit peu beaucoup de savoir-faire. C'est accessible à tout le monde, mais ça nécessite d'être formé aux règles de sécurité, au maniement, au chargement, à l'optimisation de sa tournée, etc. Donc c'est un métier.
Bon, j'ai plein d'autres questions, mais on va passer à la deuxième partie. Si jamais vous voulez voir un peu plus le travail de Carton-Plein, il y a un site internet, je vous renverrai là-dessus sur la page de 2030 Glorieuse. Il y a une partie aussi, une présence sur les réseaux sociaux qui est très bien faite, qui donne un peu des images aussi, des couleurs à Carton-Plein. Et donc, Odile, avant de voyager vers les utopies réalistes et de partir ensemble en 2030 glorieuse, je voulais qu'on termine cette première partie par un cadeau que tu vas nous faire. À chaque fois, je demande à l'invité de nous offrir une parenthèse d'inspiration et de nous ouvrir une fenêtre à travers la littérature. Il y a dans nos romans tout un tas de pistes qui montrent à quel point le monde de demain, il est déjà là, il est déjà dans nos bibliothèques, dans nos imaginaires. Et je voulais que tu nous partages une utopie qui a particulièrement résonné en toi. Avec quoi tu es venu aujourd'hui?
J'ai choisi un extrait de Rouge Impératrice de Leonora Miano, qui en termes d'utopie réaliste nous emmène vraiment très loin, qui est dans une histoire dans laquelle j'ai adoré me plonger. Elle nous propose de nous bousculer dans notre vision des rapports nord-sud entre les ex-puissances coloniales et l'Afrique. Elle propose une géopolitique révolutionnaire, une Afrique unifiée sur la base de ses traditions ancestrales et spirituelles et sur la base d'aspirations écologiques très poussées. Donc voilà, je voudrais vous emmener dans cette histoire-là avec une langue qui à elle-même nous emmène dans un autre univers. En cette veille du Sankura 6361, alors que les citadins se pressaient dans les magasins ou couraient pour attraper le babouri numéro 18, Ilunga contemplait le chemin parcouru. Il y avait encore à faire, le continent n'était pas tout à fait pacifié, mais une heureuse vibration parcourait la ville. Elle était dans le sentiment de Lidzilla à la cheville d'une jeune fille, dans l'émotion du garçon qui lui lançait « Moisi, ne bouge plus, celui que tu cherches est ici ». Elle était dans le balancement de Mishanana revisité qu'arboraient des femmes hautes, dans le chant d'un tambourinaire annonçant le programme des festivités organisées par la municipalité. On redécouvrait la douceur de vivre. Ilunga aurait voulu croire qu'il en était ainsi en mains autres endroits, que la Kitenta ne jouissait d'aucune attention particulière. Mais les grandes régions de l'État, qui s'étaient formées en agrégeant les nations coloniales du passé, n'avançaient pas à la même allure dans tous les domaines. Cet après-midi, le Mokonzi préférait congédier ses préoccupations. Elles étaient son pain quotidien. Sur la place, il y avait cette femme, aperçue la veille, comme ses déambulations l'avaient conduit au cœur d'un quartier désaffecté. L'habitat n'y avait pas été réhabilité, c'était encore ces immeubles à 3 étages construits en béton. Leur propriétaire y louait autrefois des appartements meublés destinés à une clientèle de touristes étrangers. La plupart donnaient maintenant sur l'océan qui depuis avait dévoré la berge, si bien que les constructions les mieux situées jadis subissaient désormais l'attaque constante des vagues. À marée haute, les eaux s'y engouffraient, débordaient ensuite dans une zéla puis dans une autre, jusqu'à l'inondation complète de la zone. Il fallait évacuer les errants qui continuaient de s'y installer au mépris du bon sens. Une femme dans son genre n'avait rien à faire dans ces parages, à moins d'avoir à traiter des affaires pour le moins obscures. Elle ne pouvait résider là. Non qu'elle semble faire partie des nantis, mais son élégance naturelle détonnait au milieu de ces vieux cubes. La vie, dans un tel environnement, ne pouvait qu'éroder toute beauté. Il n'y avait pas de détritus au sol. Cette architecture offensait assez la terre en plus de polluer l'atmosphère. Pourtant, elle s'était dirigée d'un pas assuré vers l'un des immeubles avant de reparaître au tout dernier étage, resserrant autour d'elle l'étoffe qu'elle s'était jetée sur les épaules à la manière d'une gouba, cape empruntée à des femmes de la Kwakangela pour devenir un vêtement à la mode. Dans le temps, les plus luxueuses parmi les résidences de ce quartier disposaient d'une terrasse avec vue sur le grand fleuve, le majestueux Lualaba. À l'époque, on ne voyait pas l'océan. La femme était restée là-haut, les yeux tournés vers le large, immobile, seule. Ilunga n'aurait pu dire pourquoi il l'avait attendue, suivie, tandis qu'elle se hâtait vers l'arrêt du Babouri numéro 22, le train de ville qui passait non loin des bâtisses abandonnées.
Merci pour cette bulle d'inspiration et du coup, nous y voici, ça y est, enfin, le moment tant attendu, nous prenons de la hauteur, nous voyageons dans les futurs, nous sommes ensemble en 2030 glorieuse, c'est le voyage le plus fantastique que tu feras dans toute ta vie et à la fois le plus écologique puisque nous n'avons pas bougé de la chaise dans laquelle nous sommes depuis plus de 20 minutes maintenant. On n'est pas très forts nous les Français pour ces projections optimistes, je dirais même, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un coup du libéralisme, on ne va peut-être pas aller jusqu'à ce point-là, mais on nous a un peu dépossédé de notre capacité à rêver. Et aujourd'hui, la capacité à rêver, elle est la seule propriété des hommes et femmes politiques qui... ont un peu volé la capacité à se projeter, la capacité à décider aussi de comment la société va se projeter dans les débats politiques, etc. et qui décide des conversations à avoir. Alors que nous, en fait, je pense que le premier pas pour reprendre notre pouvoir, c'est de lever la tête vers ces mondes qui n'existent pas encore et de les dessiner, avec toute la créativité, l'inventivité, l'amour aussi qu'on a à espérer. Ces lendemains qui chantent, ces jours heureux, on les appelle comme on veut. Donc on va faire cet exercice. Personne ne nous en voudra, personne ne nous rappellera dans 10 ans en disant hey, finalement vous avez pas réussi, il y a des choses qui n'ont pas été tenues. Mais du coup, il y a une vraie nécessité, je pense, presque révolutionnaire, à oser se projeter et à ne plus écouter cette petite voix qui est toujours en nous en disant non, c'est trop bisounours, laisse tomber, c'est trop bisounours. Donc on va pas tomber dans le discours Miss France et à la fois on va se faire plaisir, on va y aller, les coups des franches. Tu es enfin en 2030 glorieuse, toutes les personnes qui nous écoutent ne le voient pas ce monde. Toi qui as les yeux ouverts, tu peux nous décrire ce que tu vois s'il te plaît?
Alors je vois clairement, alors là je rêve mais je l'aimerais, je vois clairement un monde qui ne laisse plus personne de côté. Donc quand je vais de chez moi au travail, je ne vois personne sur les trottoirs, je vois personne sous des tentes, je vois personne sur des cartons. Mais je vois des cartons qui peuvent avoir une deuxième vie aussi. Bon là, c'était trop facile comme lien, mais oui, clairement, la société dont je rêverais, c'est une société où tout le monde a sa place et où tout le monde peut jouer un rôle choisi. mais où personne n'est de côté.
Donc on est en 2030 glorieuse, on parle au présent dans 10 ans, donc on va essayer de pas trop faire cet aller-retour permanent un peu déstabilisant pour les personnes qui nous écoutent de « Ah oui, on est en 2020, non, on est en 2030, on est vraiment en 2030 glorieuse. En 2030, est-ce que tu travailles encore à recréer ces villes qui sont plus solidaires et écologiques? Où en est-on de toute cette dynamique que tu avais lancée 10 ans en arrière avec justement le travail de Carton Plein et comment ça a réussi à essaimer?
Alors, est-ce que je suis à Carton Plein en 2030? Ça, l'avenir nous le dira, mais effectivement, je pense que je serai encore dans cette dynamique-là, dynamique que je n'ai pas enclenchée, mais moi, je me vois comme l'annonce à laquelle j'ai répondu 10 ans auparavant, qui était porteur de fraternité. Carton Plein cherchait un porteur ou une porteuse de fraternité. J'aimerais, en 2030, être toujours dans ce...
Tu es en 2030, tu es porteuse de solidarité. On va revenir là-dessus, mais clairement, au niveau plus macro cette fois, j'imagine qu'il y a des cartons pleins partout, et ils sont d'ailleurs partout en France. Toi, peut-être que même ton rôle de directrice, ça t'est d'essaimer ces 10 dernières années, des cartons pleins partout en France, et de continuer à accompagner la revalorisation des matériaux et des êtres humains.
Alors, pas en France, dans le monde, dans ces cas-là. Voyons large. Oui, des cartons plein, on en a partout parce que les gisements de matière qu'on peut à minima recycler mais à maxima revaloriser et refaire partir dans un deuxième cycle, on en a plein. Le carton, c'était notre gisement historique, mais maintenant en 2030 on travaille sur le carton, on travaille sur le papier, on travaille sur les masques, qui sait, peut-être il en reste encore, on travaille sur des tonnes de gisements différents et on crée de l'emploi. Ça permet de participer à rendre employable des personnes qui jusqu'à il y a 10 ans ne l'étaient pas. Donc on crée des activités. On est dans cette logique qui avait été créée il y a 15 ans dans les années 2015, qui était territoire zéro chômeur, de se dire que en fait toute activité peut avoir son utilité et être transformée en une activité créatrice d'emploi dans un cadre un petit peu particulier. Donc on est dans cette logique où je pense mettre quoi que ce soit à la poubelle est un acte presque révoltant ou choquant. En tout cas, c'est plus un acte du quotidien de mettre à la poubelle. On a des réflexes différents de faire partir dans des filières, de faire appel ou telle structure. Et il y a des petits cartons pleins, il y en a partout, qui sont toujours avec leur vélo et qui gardent leur philosophie d'origine de lieu de vie, de lieu de travail chaleureux, conviviaux, où chacun a l'impression de prendre sa place là où il a envie d'être.
Quand j'interview des personnes qui sont plus, on va dire, sur la thématique du zéro déchet, par exemple, on imagine ensemble une ville sans déchets, mais j'ai toujours la question de me dire mais c'est, jusqu'à quel point c'est possible, parce qu'en fait, ben voilà, pour approvisionner les épiceries, les grands magasins, déplacer des objets qui sont parfois conséquents, on aura toujours besoin d'emballage. Peut-être que ça sera complètement sans plastique, mais je vois au fait au carton une belle propriété de réutilisation, de revalorisation, de recyclage quasiment à l'infini. Et donc, est-ce que tu peux me raconter comment Carton Plein est passé d'une association qu'on consultait a posteriori, ah oui tiens, on a plein de déchets, on sait pas quoi en faire, venez les récupérer, à une association qu'on consulte en amont dans le cycle de déplacement de tous ces objets que nous utilisons au quotidien et même dans le cycle de création et de revalorisation des déchets? Comment vous êtes devenue partie prenante de toute l'utilisation des matériaux en ville?
Parce qu'entre 2020 et 2030, on a monté un gros travail de R&D sur le carton, persuadé qu'il y avait toute une filière à recréer en fait autour du carton bouilli, autour de la pâte à carton. Donc plein de choses qu'on a testées ces 10 dernières années. Et effectivement, l'histoire qui est intéressante à raconter et qui est toujours celle de Carton Plein en 2030, c'est ce circuit, cette boucle autour du carton. Donc oui, on le collecte pour le retransformer, pour le réutiliser et le retransformer. Et donc, on irrigue toute la chaîne de carton, d'objets qui sont maintenant dans nos quotidiens. C'est le plastique, c'est fini. C'est le carton bouilli qui a refait son apparition. Donc, on a dans nos quotidiens, dans nos cuisines, dans nos du carton, du carton carton imperméable dans les chantiers de construction. On a des briques en carton, on a des tables en carton avec des briquettes de carton condensé, je sais pas quel est le bon terme, mais compressé. On a développé toute une filière autour de l'utilisation du carton qui nous permet de effectivement d'être un peu dans les différentes au niveau des différents maillons de cette chaîne du carton, et finalement la collecte et la fin de cette boucle et permet de repartir dans une deuxième histoire.
Et est-ce que tu peux me raconter comment au cours de ces 10 dernières années on s'est rendu compte que même économiquement c'était beaucoup plus viable de propager ces territoires zéro chômeur plutôt que de continuer à laisser les gens dans la rue et de payer des fortunes pour tout un tas de services sociaux d'aide à la personne qui venaient que répondre et donc essayer de mettre un petit pansement sur cette plaie sociale béante. Comment en fait même économiquement on s'est rendu compte que c'était une sorte de entre guillemets bonne affaire de donner de l'emploi, même aider à toutes ces personnes qu'on a un long moment qualifié de personnes exclues, vulnérables, impossibles à réinsérer dans la société.
C'est tout à fait la logique qui avait été travaillée dans dans ce dispositif et cette expérimentation territoire zéro chômeur, c'est de dire et la logique pour les pouvoirs publics de coûts évités. Alors elle est froide comme logique, mais elle est quand même relativement implacable. Si on prend l'exemple d'une personne qui est au chômage et qui perçoit une allocation chômage, elle n'est pas du tout dans la même dynamique et dans la même valorisation. Elle n'a pas la même image d'elle-même qu'une personne qui reçoit la même chose, mais en termes de salaire lié à son travail. Et donc c'est cette logique de travail qu'on aime bien à carton plein, qui est de dire en fait... Voilà, la personne redevient elle-même actrice de sa vie, tout simplement, de son projet. Et effectivement, ça, voilà, quand on regarde par rapport à ta question, quand on regarde les coûts que génère tout le volet social que portent les départements, que portent différentes strates des collectivités en termes de soins physiques, de soins psychiques, on sait très bien que une personne qui vit à la rue, s'en sort difficilement indemne en termes de psyché. Enfin, il y a des traumas qui sont vécus pendant ces périodes là qui sont vraiment lourds à porter derrière. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'enchaînent derrière qu'on peut éviter en proposant un cadre qui permette à la personne de s'épanouir tout simplement dans un projet professionnel.
Et vous d'ailleurs, en 2020, vous étiez formateur et vous êtes devenu formateur même slash lobbyiste parce qu'aujourd'hui, vous formez toutes les villes, les territoires pour accompagner cette dynamique qui était originellement lancée par ATD Quart-Monde, des territoires zéro chômeur, pour faire en sorte que dans chaque ville, il y ait un pôle à l'emploi et un pôle à l'emploi des plus exclus. Et donc, vous accompagnez dans toutes ces villes ces municipalités qui, pendant longtemps, se considéraient complètement désarmées face à ces gens exclus. Et là, vous, avec tout un collectif d'associations, je parlais d'ATD Quart-Monde qui est l'une des premières associations, si ce n'est la première, à avoir fait partie du Conseil économique et social, qui est derrière, à l'époque, on appelait ça le RMI, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils avaient fait plein de choses. Et donc aujourd'hui, en fait, à l'intérieur, ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur de l'État, à l'intérieur des décideurs politiques, même à l'échelle de la ville, de la région, il y a des gens qui travaillent en concertation avec les associations pour faciliter l'insertion des plus démunis, de manière anticipée. Et ça a tout changé, en fait.
Alors, en 2020, comme aujourd'hui, en 2030, on est toujours en écosystème. Je pense que voilà, chacun a son expertise particulière. Il y a une horizontalité qui s'est développée entre les collectivités, entre les financeurs, entre les entreprises, entre les associations. Il y a un dialogue peut-être plus nourri. Je pense que les méfiances peut-être ou les différences de fonctionnement sont toujours là, mais chacun respecte l'expertise et l'apport de l'autre dans ce dialogue. Et c'est dans cette configuration-là qu'effectivement on arrive à chacun à apporter ce qu'on a de meilleur à apporter. On a développé cette fonction conseil effectivement auprès de collectivités, de structures, d'entreprises qui sont un peu dépassées par les problématiques sociales de la société. Et effectivement, on aime bien aussi, encore une fois, décloisonner et aller inventer un nouveau projet avec telle entreprise qui a envie d'accueillir en son sein des personnes qui ont des parcours sociaux, des parcours de vie un peu cabossés, un peu compliqués. Et on se on a ce rôle de passeur pour faire en sorte que l'emploi pour tous soit partout.
Et vous n'êtes pas trop déçu de plus être aussi unique et originaux en ville avec vos vélos cargo? Parce qu'aujourd'hui, en 2030, pour une voiture, on a 9 vélos cargo, vélos triporteurs. Et en fait, l'essentiel de la mobilité intra-urbaine, elle se fait à vélo. Cette tendance que vous aviez participé à lancer, aujourd'hui, c'est complètement démocratisé. Ça change la vie, non?
Ça change la vie, mais c'est super. Carton plein n'a jamais eu cette vocation à être sur les feux de la rampe ou être en position de leader sur de lobbying ou quoi. Donc on aime vraiment le collectif et donc on est super content d'être de cette situation là et tant mieux si c'est comme ça. Effectivement, maintenant ça embouteille dans les pistes cyclables. On a d'autres acteurs qui font la même chose que nous, mais c'est tant mieux. On n'a pas du tout prétention à pouvoir répondre à l'intégralité des besoins, donc c'est au contraire, c'est formidable.
Ça a vraiment changé, en tout cas moi en arrière maintenant je vois vraiment l'accélération qui a eu lieu au moment où tout d'un coup il y a eu, je sais pas si tu te souviens, mais je crois que c'était à 16 ans, on pouvait passer le permis pour conduire un scooter ou ce genre de choses. Ça a été arrêté. Et aujourd'hui, maintenant, à 16 ans, on passe le permis pour pouvoir conduire un vélo cargo. L'accès à la voiture est un peu plus compliqué. Ça a été la démocratisation de ces moyens de transport.
Oui, et puis qui forme aujourd'hui, ce sont des structures d'insertion qui elles-mêmes ont formé des personnes à la conduite en vélo. Et donc, il y a toute cette transmission aussi qui est intéressante et ces occasions de rencontre. Donc oui, effectivement, on parle de vélo-école et il y en a beaucoup plus que des auto-écoles maintenant.
J'adore. On revient à toi et on termine avec cette question. Odile, à quoi ressemble ta vie en 2030 glorieuse?
Ma vie en 2030 glorieuse, moi je la vois en zone urbaine. J'aime la ville, j'aime bien pouvoir m'en extraire de temps en temps pour aller me ressourcer et aller voir un peu ailleurs et respirer et être dans des plus grands espaces. Mais il y a énormément d'enjeux. En 2030, on sera encore beaucoup à vivre en ville. Donc j'ai envie de continuer à prendre ma part dans cette création de ville. Alors en 2020, on disait solidaire, inclusive. Peut-être qu'aujourd'hui, on utilise un peu des mots nouveaux, mais une ville où chacun a sa place. Donc je suis toujours là dans le paysage quelque part. Peut-être sur un petit vélo et en train de discuter avec quelqu'un.
Merci de t'être prêté au jeu. Ça passe vite, hein. Ça fait déjà près de 20 minutes là, qu'on était ensemble en 2030 glorieuse. Le temps se dilate, hein. C'est assez extraordinaire. On est de retour en 2020, les gens en 2021 même. Les gens nous écoutent, se sont enthousiasmés de ce cap qu'on vient de dessiner ensemble. Et puis on retourne à notre quotidien. On retourne à notre to-do list, à notre agenda, à nos frustrations, à nos obstacles, à nos limites aussi. Quel premier pas tu proposes à celles et ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme première action pour marcher, pour cheminer vers ce 2030 glorieuse qu'on a construit, élaboré, dessiné ensemble aujourd'hui?
Le premier pas, moi je pense que c'est toujours un pas un peu lié à l'action. Alors après, on ne sait pas toujours comment agir. Donc la discussion avec des personnes qui agissent, la rencontre, venir ne pas hésiter à passer la porte d'une asso. Je sais qu'à Carton Plein, on aime bien ça, les gens qui ouvrent la porte et qui disent « j'aimerais bien découvrir un peu ce que vous faites ». Parfois, on commence comme ça et c'est le début d'une belle aventure en termes de bénévolat, de coups de main, d'idées, de propositions ponctuelles ou moins ponctuelles, mais rencontrées. Sur la question des personnes en grande précarité et des personnes à la rue, moi, comme tout le monde, on ne sait pas comment s'y prendre. On a un peu honte d'être là où on est, on ne sait pas très bien si c'est bien ou pas de créer le dialogue. Bref, on est très maladroit, on ne sait pas comment s'y prendre. Des cadres comme ceux que propose Carton Plein, ça, la question se pose plus. En fait, on est dans un cadre de travail, on est là, on co-travaille ensemble. Et donc, ça crée des occasions de rencontres et de partage qui sont plus faciles aussi. Donc, ne pas hésiter à passer, à passer par les associations, par l'action. Donc, quand on partage, quand on vient cuisiner ensemble, quand on vient trier, déscotcher le carton ensemble, quand on chante ensemble, voilà. D'un coup, les barrières s'amenuisent et le contact est plus facile. Je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais donc peut-être le premier pas, c'est des idées d'action, des idées de rencontre, et peut-être passer par des associations, ça facilite un petit peu, ou en tout cas ça rassure aussi. Donc on peut être des bons passeurs de fraternité.
Merci Odile.
Merci Julien.
Et voilà, cet échange avec Odile vient de se terminer. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à mettre de la complexité dans la compréhension des enjeux écologiques et solidaires. L'exemple de Carton Plein, je l'adore parce qu'il montre à quel point, fin du monde, fin du mois, même combat, gilet jaune, gilet vert, enfin, vous avez compris l'idée. Et aussi, comment, la ville, elle a toute sa place avec toutes les ressources qu'on a utilisées jusqu'à présent, et notamment le carton, pour accélérer la propulsion des mondes durables et solidaires de demain, parce que ces ressources, elles seront les richesses de nos nouvelles entreprises, de notre système économique changeant, et parce que la ville, elle a aussi tout un tas d'avantages, notamment celui de la proximité des gens, des commerces, pour pouvoir justement accélérer drastiquement l'utilisation des mobilités douces. Et puis forcément, je ne peux pas m'empêcher de dire à quel point je suis heureux aussi d'avoir pu mettre en avant cette initiative qui a fait du vélo à la fois un ambassadeur, parce qu'on les voit de partout dans les rues, ces vélos et sa marque, mais aussi l'outil essentiel. Et c'est moi, mon moment de liberté quand je me déplace à vélo, donc je suis content de voir qu'à terme, on pourra aussi, de manière très fréquente, aller travailler grâce à son vélo, mais pas que, aussi travailler grâce à son vélo, et donc là, en l'occurrence, carrément même déménager des appartements. Voilà, pour l'instant, Carton Plein, c'est une association qui n'existe qu'à Paris, mais je suis sûr que très bientôt, c'est un mouvement qu'on retrouvera dans toutes les villes de France, ou presque, et ça fait vraiment envie. Allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, et je vous souhaite une excellente semaine. Salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!